Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. Cette fois, c'est le variant brésilien du Covid qui inquiète. Conséquence immédiate, tous les vols entre le Brésil et la France sont suspendus, annonce faite par le Premier ministre tout à l'heure à l'Assemblée. On en parlera avec un virologue, le professeur Bréchot. Il sera avec nous dans un quart d'heure à 18h15 et il nous aidera à comprendre la gravité de ce qu'il se passe. Amandine Bégaud, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les autres grands titres dans l'actualité de ce mardi 13 avril.
Et à la une, les régionales en débat en ce moment même à l'Assemblée nationale. Comme RTL vous l'annonçait dès ce matin, le scrutin sera maintenu. Il devrait être décalé d'une semaine. Dans ce journal également, un nouveau vaccin dans la tourmente, le Johnson & Johnson suspendu ce soir aux États-Unis. Et puis il y a du foot, bien sûr, PSG-Bayern, match retour, c'est ce soir au Parc des Princes, à la clé, une place en demi-finale de Ligue des Champions.
Et quand même, après Barcelone, s'il croque le Bayern, ce sera quand même un joli signe. J'allais dire Amandine, non, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Malheureusement, ça va encore beaucoup geler demain.
Oui, moins 3 degrés attendus à Reims et à Nevers, moins 1 à Caen, Lyon, Auch, 1 degré à Marseille, 2 à Paris et à Toulouse. Les maximales seront stationnaires, comprises entre 10 et 14 degrés jusqu'à 18 au sud. Alors côté ciel, globalement, la journée sera ensoleillée avec un peu plus de nuages au nord, voire quelques gouttes en journée, et un ciel plus nuageux entre les Alpes du Sud et la Corse, avec un risque d'averse dans l'après-midi et une limite plus neige à 1400 mètres.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France.
La mesure était réclamée à la fois par les médecins mais aussi par une partie de l'opposition. Jean Castex, vous venez de l'entendre, l'a donc annoncé tout à l'heure à l'Assemblée. La France suspend ses vols avec le Brésil. Objectif, limiter la propagation du variant brésilien. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Deux avions devaient quitter ce soir Paris pour le Brésil. Est-ce qu'ils sont annulés ?
Eh bien, à l'heure où je vous parle, on ne sait toujours pas. Ces deux vols pour Sao Paulo et Rio de Janeiro doivent théoriquement quitter Paris peu après 23h et revenir demain matin. Mais leur sort n'est pas encore scellé. En fait, Jean Castex va probablement utiliser le même dispositif que lorsqu'il avait annoncé la suspension du trafic entre le Royaume-Uni et la France. C'était juste avant Noël, le 20 décembre, et c'était pour une durée de 48 heures. La différence cette fois-ci, c'est que la durée de la suspension n'est pas précisée. Dans l'entourage du Premier ministre, on explique que le temps de la suspension sera mis à profit pour mettre en place un nouveau protocole, c'est-à-dire un dispositif qui permettra d'accueillir, avec des mesures encore plus renforcées, les passagers en provenance du Brésil. Une consultation au niveau européen sera d'ailleurs proposée pour tenter d'obtenir des nouvelles règles à l'arrivée. Y aura-t-il une obligation d'être confiné dans un hôtel pendant 10 jours sous peine d'amende comme au Royaume-Uni ? Toutes les pistes seront explorées, fait-on savoir ce soir.
Arnaud Touche, spécialiste des questions de transport ici à RTL. Et à l'heure où on se parle, Jean Castex est toujours à l'Assemblée.
Le jour appelle la déclaration du gouvernement relative à l'organisation des prochaines élections départementales et régionales.
Débat sur les régionales, donc.
Oui, on vous l'annonçait dès ce matin sur RTL. Le Premier ministre propose donc de décaler d'une semaine le scrutin. Le premier tour aurait lieu le 20 juin, le deuxième le 27. Le Premier ministre a terminé son discours et maintenant se succèdent les différents groupes à l'Assemblée.
Du côté de la vaccination, un nouveau coup dur, donc cette fois pour le vaccin Johnson & Johnson.
Un vaccin qui est arrivé hier en France et censé être administré à partir de la semaine prochaine. Les États-Unis ont décidé aujourd'hui de faire une pause, c'est le terme employé dans son utilisation. Lionel Gendron, vous êtes sur place pour RTL, quel est le problème ?
En fait, 6 personnes, 6 femmes jeunes de 18 à 48 ans ont développé une thrombose, c'est-à-dire des caillots sanguins dans le cerveau. L'une d'elles est décédée, une autre est hospitalisée dans un état critique. Elles ont toutes reçu le vaccin Johnson & Johnson et développé des symptômes entre 6 et 13 jours après l'injection. Dans une conférence de presse il y a quelques minutes, les autorités sanitaires ont promis la transparence, rappelant que ces complications sont très rares puisque près de 7 millions d'Américains ont déjà reçu ce vaccin. L'Agence américaine des médicaments est en lien avec ses homologues européens et pour l'instant, les livraisons vers l'Europe sont suspendues. Une décision logique puisqu'une réunion est prévue demain pour entendre l'avis de tous les experts. La France a déjà reçu 200 000 doses de ce vaccin à une seule injection mais n'a pas commencé à l'administrer. Aux États-Unis, ceux qui devaient recevoir le vaccin Johnson & Johnson aujourd'hui recevront à la place une dose Pfizer ou Moderna.
Lionel Gendron, le correspondant d'RTL aux États-Unis. Et dans le même temps, en Autriche, figurez-vous que le ministre de la Santé a carrément démissionné, épuisé par le Covid. Il l'a annoncé
pour
tout
cause
à
de fatigue, alors.
Oui, pour cause de fatigue, il l'a annoncé en conférence de presse. Écoutez.
Il y a de cela 15 mois, j'ai pris des fonctions très exigeantes. J'ai l'impression que ce n'était pas il y a 15 mois, mais il y a 15 ans. C'est pourquoi, en concertation avec mes médecins, j'ai décidé de mettre fin à mes activités de ministre.
Rudolf Anschober, c'est le nom de celui donc qui était ministre de la Santé en Autriche. Âgé de 60 ans, il avait été hospitalisé le mois dernier pour des problèmes cardiovasculaires.
Elle a aussi été hospitalisée, mais elle va mieux. Roselyne Bachelot, qui a repris le travail, séance à distance avec le Sénat pour la ministre de la Culture.
Première apparition depuis son Covid et sa sortie de l'hôpital.
L'image a disparu, j'espère que le son n'a pas disparu de la même façon.
Bon, alors ça a l'air d'aller.
La voix.
Son côté, Jean-Michel Blanquer, lui, a été déclaré cas contact. Le ministre de l'Éducation nationale testé négatif. Il n'a aucun symptôme, dit son entourage, mais a été placé à l'isolement. C'est la règle.
Toute petite pause dans un instant. La suite de ce RTL Soir avec un drame à Pantin près de Paris. Une petite fille a été blessée par balle tout à l'heure.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
18h07, la suite du journal avec vous, Amandine Bégout.
Une petite fille a donc été blessée par balle aujourd'hui à Pantin, en Seine-Saint-Denis, une fillette de 10 ans. Elle se trouvait en voiture avec son père au moment des faits, Guillaume Chiez.
Oui, tous deux quittaient leur domicile dans une rue fréquentée de Pantin. Aux alentours de 13h30, un homme s'approche à pied du véhicule, tire plusieurs coups de feu. La fillette est touchée au dos. Le père de famille la transporte directement à l'hôpital en urgence absolue. Au final, aucun organe vital n'est atteint et à l'heure qu'il est, les jours de la petite fille ne sont plus en danger. Le tireur, lui, a pris la fuite sur une trottinette. Il est introuvable. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la PJ parisienne. Et la piste privilégiée ce soir par les enquêteurs est celle du règlement de compte. Le père de la fillette est très défavorablement connu des services de police. Il a entre autres été condamné, puis acquitté en appel l'an dernier dans une affaire d'homicide sur fond de trafic de stupéfiants qui remonte à 2013.
Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Le foot, et c'était évidemment l'événement ce soir sur RTL, ce match retour de quart de finale de la Ligue des Champions.
PSG Bayern, bonsoir Philippe Sanfourche.
Bonsoir.
Au match aller, les Parisiens, on le rappelle, l'ont emporté 3-2. Ils ont donc un peu d'avance, mais pour eux, cette rencontre, c'est plus qu'une place en demi-finale. Cela pourrait être la porte d'entrée dans la cour des grands.
Et oui, parce que sur le plan économique, Paris évolue déjà dans les plus hautes sphères. Hier, le magazine américain Forbes a publié un classement qui valorise le club à 2,5 milliards de dollars, soit 129% de hausse en seulement 2 ans. Alors, Neymar et Mbappé, ils sont pour beaucoup. Ils offrent une exposition mondiale. Mais la marque PSG a aussi besoin d'être consolidée par des exploits planétaires. C'est une pression énorme qui pèse donc sur les épaules des joueurs et de Presnel Kimpembe ce soir au Parc des Princes.
On n'y pense pas forcément, mais voilà, c'est sûr que de pouvoir éliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand. C'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc voilà, beaucoup de respect pour eux, mais ce serait quand même très bien de notre part de pouvoir faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification.
Un véritable coup de force qui pourrait aussi débloquer, pourquoi pas, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé dans la capitale alors que Neymar est sur le point de re-signer. Enjeu XXL donc pour le PSG, pour le Qatar aussi, à 1 an et demi maintenant de la Coupe du Monde 2022.
Philippe, on joue, il se qualifie ici ou pas? On essaye ou pas?
J'allais vous demander un prono, mais pareil.
C'est toujours très simple, il faut revenir à la règle de base qui est de dire en cas d'égalité totale, on regarde le nombre de buts marqués à l'extérieur. Pour
D'accord.
l'instant, le PSG en a mis 3, donc si quelqu'un but d'écart avec le Bayern l'emporte, il faut qu'il gagne 4-3 ou qu'il gagne 5-4 ou qu'il gagne 6-5 pour se qualifier le Bayern.
Bon,
on n'est pas là.
En tout cas, en cas de victoire ou de match nul du PSG, ça passe dans tous les coups.
Ah là, c'est clair. Si le PSG gagne ou fait match nul, ils sont qualifiés.
PSG Bayern à suivre en direct, bien sûr, sur RTL, RTL Foot, dès 20h45, coup d'envoi à 21h et ça durera jusqu'à 23h30 avec vous tous et toute l'équipe. La bonne nouvelle du jour.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et voilà un secteur qui a le sourire. Ils ne sont pas nombreux, il faut bien le reconnaître en ce moment. Ce secteur, c'est celui du bricolage. Il affiche, Thomas, une croissance à 2 chiffres. C'est du jamais vu, plus 13% en 2020.
C'est pas moi, j'ai rien fait.
Non. Le, ou plutôt les confinements sont bien sûr passés par là. Étienne Baudu, vous avez-vous trouvé une bricoleuse qui en a profité carrément pour refaire sa maison du sol au plafond?
Ah oui, car finalement, entre le télétravail, les enfants et les week-ends bloqués à la maison lors du premier confinement, il reste beaucoup de temps à Karine pour prendre ses pinceaux, sa ponceuse et sa visseuse.
Dans la pièce principale, un peu d'enduit pour reprendre les murs et toute la peinture. Donc il y a 60 mètres carrés sur des plafonds de 3,50 mètres. Donc ça fait un certain mètre carré. Voilà. Au départ, des copains devaient venir le week-end du confinement justement pour peindre avec moi. Et au final, personne n'a pu se déplacer.
Et donc Karine, qui certes était déjà bonne bricoleuse mais n'avait jamais fait aussi grand, va y passer plus d'heures que prévu. Mais sur sa lancée, elle va s'attaquer aussi à des travaux qu'elle n'avait jamais envisagé de réaliser elle-même, comme la maçonnerie.
J'ai fait des escaliers pour monter sur la terrasse. Donc j'ai récupéré des parpaings, collé les parpaings au mortier, récupéré du carrelage, découpé à la meuleuse parce que j'avais pas de découpe carreau et que je pouvais en prendre nulle part. Un peu de joint, un peu de voilà. Donc j'ai fabriqué mes escaliers. Oui, je suis fière parce qu'ils sont pas si mal que ça.
Et le budget dans tout ça ?
5 500 en tout quoi. Oui, les dépenses auraient été faites, mais peut-être pas sur l'année. Elles auraient été étalées sur plus long terme parce que on faisait des travaux pendant le week-end parce qu'on pouvait rien faire d'autre.
Et alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, Karine connaît absolument par cœur les catalogues de toutes les enseignes de bricolage de la région.
Sacrée bricoleuse.
Elle a tout fait.
Étienne Baudu à Marseille.
Incroyable. Vous bricolez, vous, ou pas ?
Je suis super nulle. Mais
vous
vraiment.
Êtes super nulle.
Je suis même pas sûre de savoir vraiment bien planter un clou.
Vous sous-estimez. C'est le clou qui est pas bien, c'est pas vous. Merci beaucoup, Amandine. À tout à l'heure. Variant brésilien, on en parlait. Vaccin suspect. On a bien besoin d'un virologue ce soir. Il est l'un des plus éminents. C'est le professeur Christian Bréchaud qui préside le Global Virus Network. Il est tout de suite l'invité d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il a dirigé l'INSERM et l'Institut Pasteur. Il est le président du Global Virus Network, qui est une coalition mondiale de virologues. Le professeur Christian Bréchaud est donc l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, professeur Bréchaud.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
À chaque jour, sa nouvelle inquiétude. Aujourd'hui, on a au moins deux nouvelles raisons de s'inquiéter, professeur. Il y a le variant brésilien et il y a le vaccin Johnson & Johnson. Alors, on va commencer avec le variant brésilien. Il fait des ravages là-bas. En quoi est-il plus inquiétant que les autres, celui-là ?
Si vous voulez, effectivement, d'abord, la situation au Brésil est une situation vraiment terrible. On le sait tous, mais il faut vraiment le redire. Et quand on a une circulation du virus très intense comme au Brésil, malheureusement, ça favorise toujours l'apparition de nouveaux variants. Ce variant, clairement, il est fortement contagieux. Pas forcément plus contagieux que le variant dit UK, mais il est clairement fortement contagieux. La préoccupation, c'est que il y en a deux finalement, au-delà de la contagiosité, c'est que les personnes qui sont hospitalisées actuellement sont des personnes jeunes, et il va falloir comprendre, parce qu'il faut être prudent à ce stade, si ce sont des propriétés du variant lui-même, si vous voulez, qui seraient plus pathogènes, et en particulier chez les jeunes, ou si ce sont des particularités de l'épidémiologie. C'est toujours difficile de distinguer quand on parle d'un virus entre ce qui est dû au virus lui-même et ce qui est dû au virus à l'hôte, vous voyez, à l'humain. Par exemple, la nutrition, la pollution, l'environnement jouent un rôle dans la fragilité qu'on peut avoir par rapport à une infection. Donc, on ne sait pas encore très très bien quel est son pouvoir pathogène, mais on observe, encore une fois, une contagiosité très forte, beaucoup beaucoup de patients, des patients plus jeunes. L'autre chose, c'est le vaccin.
On va y venir, mais juste, j'ai encore quelques questions sur ce variant brésilien. On entendait Jean Castex tout à l'heure dans le journal de 18h, le gouvernement français a annoncé la suspension de tous les vols entre le Brésil et la France, professeur Bréchaud. En quoi cette mesure peut-elle être utile, selon vous ? Et l'est-elle d'ailleurs utile ?
C'est toujours très difficile comme décision, mais c'est logique, je trouve, de fermer les frontières, du moins de façon temporaire, le temps de s'organiser. Il est clair que le variant brésilien, il est déjà en France, mais il est très peu répandu et il est logique, je dirais, d'empêcher des contaminations plus fortes venant par des personnes infectées qui arriveraient en France.
Mais s'il est déjà là, est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce qu'on n'a pas réagi trop tard ?
Alors, je dirais pas qu'on a réagi trop tard, mais si vous voulez, malheureusement, il n'y a pas une seule mesure qui, à elle seule, va régler le problème. Il y a un ensemble de mesures. Il faut effectivement, à côté de ça, les méthodes de diagnostic rapide sont absolument essentielles pour avancer vite dans le contrôle de la pandémie. Et ce que je voulais dire sur le vaccin, c'était que les vaccins actuels, le variant brésilien, malheureusement, semble, comme le variant sud-africain, plutôt moins sensible au vaccin actuel. Mais ce sont des études qui sont in vitro, si vous voulez, dans des boîtes de culture. Quand on vaccine des personnes, il est quand même vraiment infiniment probable que les vaccins actuels protègent contre les formes graves. Donc autrement dit...
En fait, on a un faisceau d'indices, mais on n'est pas sûr, on n'a pas de certitude sur l'efficacité des vaccins aujourd'hui face à ces variants sud-africains et brésiliens, c'est bien ça?
Disons que sur les variants sud-africains, il y a eu des études qui ont été faites. Sur le variant brésilien, ça commence juste. Mais ce que je cherche à dire, c'est que je pense personnellement que les vaccins actuels peuvent contenir des formes graves dues à ce type de variant. Donc, c'est préoccupant, contagiosité, plus jeunes personnes touchées, incertitude, je dirais, sur l'efficacité des vaccins. Mais à l'arrivée, ça n'est pas non plus quelque chose qui remet en question, je dirais, toutes les stratégies de santé publique.
Donc, il ne faut pas être alarmiste, c'est ça ce que vous nous dites? Ne nous alarmons pas démesurément.
Non, exactement. Je pense qu'il faut être vraiment vigilant. Je pense que, pour répondre à votre point, ça n'est pas illogique de fermer la frontière, mais ça ne peut que s'associer, eh bien, à ce qui est toujours la même chose, hein, c'est continuer l'effort de vaccination et renforcer aux frontières, parce qu'on ne pourra pas garder les frontières fermées très très longtemps, si vous voulez, c'est renforcer les techniques de diagnostic très rapide. Ça, c'est un point absolument.
Donc les autotests, les tests antigéniques, tout ce dispositif-là.
Les tests salivaires, tests antigéniques, autotests, une fermeture des frontières temporaires, le temps de réellement pouvoir s'organiser, toujours les capacités de séquençage, parce que ce sont elles qui permettent, si vous voulez, de suivre un variant, mais ça ne change pas fondamentalement. On n'est pas devant une nouvelle maladie, si vous voulez. Ça ne change pas fondamentalement l'ensemble des mesures qui sont prises actuellement par rapport aux variants UK, par rapport aux variants sud-africains. Mmh.
Alors, on a aussi une inquiétude sur les vaccins. On a appris que les États-Unis ont décidé de faire une pause dans le vaccin Johnson & Johnson, hein, celui pour lequel une dose suffit, et ce, après la découverte de quelques cas de caillots de sang. On doit s'inquiéter pour notre santé ou on doit s'inquiéter des excès du principe de précaution? Quel est votre regard là-dessus, professeur Bréchaud?
C'est la très bonne question. Je dirais que aux États-Unis, il y a 7 millions de personnes qui ont été vaccinées par le vaccin Johnson & Johnson et il y a 6 cas de thrombose.
6 cas sur 7 millions.
Voilà, on est dans des raretés et donc je pense que ça ne remet pas en cause, comme pour d'ailleurs AstraZeneca, hein, le bénéfice-risque du vaccin. Maintenant, on est dans une situation où le principe de précaution doit s'appliquer. Et effectivement, il faut analyser ces cas. Pour l'instant, la FDA n'a pas dit que les cas étaient dus au vaccin. Ils ont observé, c'est toujours pareil, 6 cas de thrombose chez des personnes qui ont reçu le vaccin. Et ces cas de thrombose, comme ceux qui sont survenus avec AstraZeneca, sont un peu différents des caillots habituels. Il y a à peu près 300 000 personnes aux États-Unis chaque année qui font des thromboses. Mais le point, vraiment qui est un point d'attention, c'est que les caillots qu'on a observés là sont différents et sont beaucoup plus proches de ceux qui ont été rapportés à côté du vaccin d'AstraZeneca.
Sachant tout ça, professeur Bréchaud, vous dites quoi? Vous dites, attendons-nous ici en Europe, en France, avant d'utiliser ce vaccin ou allons-y comme prévu dans quelques jours?
Moi, je dirais que je pense que la FDA va donner son avis très très rapidement. Je pense qu'il faudra y aller, mais, et d'ailleurs c'est ce qui a été fait pour le vaccin AstraZeneca, peut-être qu'il faudra le réserver à certaines populations et pas à d'autres. Et c'est là, il va falloir trouver l'équilibre entre le fait que ce vaccin est très efficace, qui va sauver énormément de vies. Encore une fois, que les événements dont on parle sont des cas rarissimes, mais en même temps, à partir du moment où ils existent, eh bien, effectivement, on ne va pas pouvoir vacciner sans négliger, si vous voulez, ces informations. Mmh.
Est-ce que vous savez maintenant si, oui ou non, les vaccins, quels qu'ils soient, je crois qu'il y en a 11 dans le monde, empêchent ou non la transmission du virus? On sait qu'on, globalement, on ne peut plus l'attraper de manière grave, a priori, quand on est vacciné, ce Covid, mais on se demande toujours si on peut le transmettre à quelqu'un d'autre, si on peut être porteur, en quelque sorte. Est-ce que vous avez une réponse là-dessus ou pas?
Oui, mais ce sont des questions très importantes. Les études de Pfizer en Israël ont montré qu'environ 10-15 jours après la première dose, dans la grande majorité des gens, ça ne veut pas dire tout le monde, vous avez une prévention de la transmission. Les vaccins de ce type, sur les souches, soit standard, soit UK, préviennent de la transmission. Et donc ça, ce sont vraiment des bonnes nouvelles, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde, parce que ce sont des moyens, si vous voulez, que je donne, vous voyez. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même garder le masque et les mesures.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, tous les jours ou presque, et je le disais au début de cet entretien, on a des mesures, des nouvelles qui sont plus ou moins inquiétantes ou plus ou moins rassurantes. Ça dépend des jours. Et en fait, à chaque fois qu'on se dit, bon, on va s'en sortir, la vaccination accélère, on prend un coup de pelle. L'OMS disait hier, l'Organisation Mondiale de la Santé disait, nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie, la trajectoire de cette pandémie est en pleine expansion. Est-ce que vous vous sentez débordé, dépassé par ce virus, vous ? Est-ce que vous aussi, comme nous qui ne sommes pas épidémiologistes, vous vous dites, professeur Bréchot, on s'en sortira jamais ?
Alors, je me dis pas ça. Je suis vraiment convaincu qu'on va s'en sortir, très sincèrement.
Hein.
Je dis pas ça parce que, et je pense, si vous voulez, qu'à l'automne, on aura vraiment rétabli les choses. Mais ce que je pense, vous avez raison, c'est qu'on prend des coups sur la tête. On est face à un virus qui est une saleté, hein, pour parler familièrement. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais vous voyez, pour ces variants, je pense qu'il faut vraiment à la fois les prendre en considération et ne pas non plus s'inquiéter d'une façon outrancière, trop forte, parce que on a le sentiment que ce virus n'a pas une gamme de mutations, si vous voulez, pour échapper à la vaccination si importante. Autrement dit, les choses vont se contenir progressivement et je pense qu'on peut contenir absolument ce variant brésilien comme les autres.
Vous pensez comme ça qu'il est envisageable de rouvrir à la mi-mai des terrasses et certains lieux culturels ? Vous pensez que c'est médicalement ? Vous avez dit tout à l'heure, il y a le vaccin, mais il y a aussi toutes les autres précautions à prendre. Ça peut tenir dans un mois ?
Écoutez, c'est très difficile, mais moi je pense que ça ne pourra tenir que si on met en place des mesures de diagnostic très très rapides qui permettront de très très bien cibler les gens, que ce soit dans des restaurants, dans des qui sont infectés. Je pense qu'il y a un travail où là on est en retard en France, il faut dire les choses, il y a beaucoup de choses qui marchent bien, mais il y a des choses qui ne marchent pas. On a pris du retard, le Global Virus Network avait pointé la possibilité des tests salivaires, des antigènes très tôt, à l'été dernier. Je pense qu'il faut absolument tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de la réouverture, de la capacité d'identifier de façon très rapide les personnes infectées. Après, il faudra décider, et c'est ce que sûrement veut faire le gouvernement, une dizaine de jours avant, de voir où on en est. Puisqu'on a l'impression que l'épidémie diminue un peu en France, mais il faut être prudent, il faut suivre... Voilà.
Merci beaucoup, professeur Bréchot. On précise que Emmanuel Macron présidera jeudi une réunion sur les protocoles sanitaires à mettre en place en vue d'une réouverture progressive des lieux qui accueillent du public. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous et de la clarté de vos propos. À suivre, l'œil de Philippe Carvillard. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors il y aura ce soir dans votre œil, dans votre chronique, une réponse à la communauté portugaise qui s'est sentie offensée, vraiment offensée par un ancien papier. Comment vous le vivez, vous ?
Écoutez, je revis sous protection policière. J'avais déjà deux gars du GIGN depuis la fatwa des Forbans. J'en ai deux de plus depuis la fatwa portugaise. Encore une fatwa, on va être trop nombreux pour aller dîner chez Pierre-Jean Chalençon. On sera à 7.
Le problème de Cavalier, quand il veut arranger quelque chose, il aggrave son cas. Allez, on voit ça juste après le rappel des titres.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL. 18h29.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel.
Et la France suspend ses vols avec le Brésil et ce jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Jean Castex. Objectif, enrayer la propagation du variant brésilien. Le Premier ministre qui propose par ailleurs ce soir devant les députés de décaler les élections régionales d'une semaine. Le premier tour le 20 juin, le deuxième le 27.
Certes, ce n'est qu'une semaine. Mais une semaine supplémentaire. Une semaine de vaccination en plus, soit au moins 2 millions de personnes vaccinées. Une semaine de préparation en plus, tout compte.
Extrait du débat qui a lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale. Demain, nouveau Conseil de défense. Emmanuel Macron présidera ensuite en fin de journée une réunion à l'Élysée sur les protocoles de réouverture des différents lieux publics, des différents lieux accueillant du public. Bonne partie du gouvernement devrait y participer. Et puis un nouveau vaccin dans la tourmente, le Johnson & Johnson, suspendu ce soir aux États-Unis après 6 cas de thrombose, 6 sur près de 7 millions d'injections. Le laboratoire indique ce soir que cette décision va retarder son déploiement en Europe.
La météo. météo, Peggy Broche. Demain, on aura une matinée froide comme une vanne foireuse de Philippe Gavrivière.
Si vous le dites. Moins 3 à Charleville-Mézières. C'est vrai qu'on a encore des gelées demain. Moins 2 à Rodez, moins 1 à Strasbourg, Rouen, Alençon. 1 degré à Montauban, 2 à Paris, 6 à Perpignan. Alors, les maximales seront stationnaires par rapport à aujourd'hui, de 10 à 15 à 14 degrés au nord et de 13 à 18 au sud. La journée, globalement, sera ensoleillée sur la majeure partie du pays avec un ciel un peu plus variable au nord, voire quelques averses près des frontières dans l'après-midi. Et le temps sera plus nuageux et humide dans la journée entre les Alpes du Sud et la Corse avec de la neige dès 1400 mètres.
Merci Peggy. L'œil de Philippe Cavrivière. Philippe, alors on va revenir en fin de chronique sur un de vos anciens papiers du mois de janvier qui fait le buzz, qui fait polémique dans la communauté portugaise, Philippe.
Non, Felipe dos Cavrivière. Je fais une demande de nationalité portugaise là, pour me faire pardonner. Je ne sais pas si elle va être acceptée.
C'est pas gagné.
Je suis la petite Mila de Lisbonne, le Salman Rushdie des Lusitaniens. Alors, je stagnais péniblement à 20 000 vues en vidéo et grâce à une partie des Portugais, je suis passé à 140 000 vues. Bah déjà, obligado à tous. Je pense que... Hortefeu, Alain Duhamel et Pierre-Jean Chalençon peuvent aussi me dire merci, parce qu'on va moins parler d'eux dans les prochains jours. Et je dois dire que je me sens aussi proche des musulmans de Rennes, Ramadan Moubarak au passage. Moi aussi, je me suis fait taguer mon mur avec des insultes.
Votre mur ?
Mon mur Facebook. Bon, c'est facile à revoir, mais
oui, ça, c'est vrai.
Il est dégueulasse pour l'instant.
Bon, décidément, c'est pas votre semaine, Philippe, parce que vous avez aussi reçu des insultes, des bordées d'insultes à cause d'une blague chez Laurent Ruquier sur France 2 samedi soir. Blague sur la mort du prince Philippe. Vous avez dit... Fauché à 99 ans, c'est trop injuste, on pense à ses parents.
Et bien vous voyez, ça continue à me faire rire, ça continue à m'amuser. Et le gars m'a mis sur mon mur, espèce de gros connard.
Il vous connaît bien.
Oui, c'est un ami. On signe, j'ai l'impression qu'on signe tous pour une vie royale de 99 années en palais. C'est pas une surprise énorme de mourir à 99 ans.
Non.
Qu'est-ce que vous voulez qu'il lui arrive d'autre à 99 ans ? Qu'il gagne une médaille d'or aux 100 mètres ? Non ! Alors, c'est vrai, ce qui est triste, c'est qu'il n'a pas atteint la barre des 100. Il allait avoir 100 au mois de juin.
Oui.
Contrairement à Diana, qui a atteint les 120, mais pas longtemps. Oh. Voilà. Oh. Et alors, on redécouvre sur BFM les photos du prince Philippe jeune. Très beau. Très beau. Souvent, les Philippes sont très beaux.
Oui, très beau, souvent, ça ne veut pas dire toujours. Hein,
le prince Philippe, très beau. La reine était pas mal non plus. Et résultat, ils ont eu Charles. C'est le mystère de la génétique. Hein. Plus et plus, ça fait moins des fois. Alors, on ne connaît pas les causes du décès de papy. L'autopsie n'a pas permis de révéler la présence de plats lyophilisés de Christophe Leroy dans son estomac. Mais soyons positifs. Pour nous consoler de ce décès, comme on dit dans les labos, un vieux de perdu, deux doses de retrouvé.
Oh, c'est joli, ça.
Et je m'excuserai auprès des Anglais. Hein, maintenant, on fait comme ça. Mardi, saloperie. Jeudi, je m'excuse.
On garde
le rythme.
Ouais, vous allez devoir quitter l'Europe, vous, bientôt. Un mot des tags, vous l'évoquiez, les tags anti-musulmans à Rennes qui ont indigné le pays et Gérald Darmanin.
Oui, vous avez vu les tags ? Pas Jojo. C'est pas Banksy, a priori. Premier constat, les Bretons, leur truc, c'est plus les crêpes que le street art. Vous vous rendez compte, les fachos en Bretagne, les pauvres, ils sont obligés d'écrire sur les murs. Mais enfin, installez-leur des antennes relais et la 3G qui puissent envoyer des petits textos racistes. En tout cas, le groupe de rock alternatif engagé, les Kids United, avait prévu ces débordements.
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.
Bien sûr, jeudi, je m'excuserai auprès des Bretons. Et des enfants bretons.
Oui, absolument. Alors revenons donc sur cette chronique de janvier dans laquelle vous parliez de vos vacances au Portugal. Elle fait le buzz à l'international, hein, puisqu'il y a une radio portugaise qui vous a répondu, Philippe.
Ben moi, quand je buzz, c'est worldwide. C'est à l'international. On écoute mon confrère Luis Franco Bastos. Tout de suite.
Informação. Por uma rádio francesa, a RTL, na pessoa do jornalista Philippe Cavrivière. Exatamente. O Philippe Cavrivière começa por dizer que Portugal o deixou agradável.
C'est pas une blague, hein? C'est pas un montage.
Alors, déjà, il prononce Cavrivière très bien, mieux que les Français. Merci, Louis. Et il m'a mis journaliste, alors que je suis chroniqueur. Journaliste. C'est là. Et c'était, la confusion vient peut-être de là.
Hein. C'est pour ça que c'est pas sur les affiches.
On dit le journaliste. Non, j'aurais adoré, mais j'ai pas fait d'études, les amis. Alors, on m'a traduit les propos de Louis. Il m'a comparé à Tarzan avec mes colliers en bois.
Oui.
Ça, c'est vrai, Louis, c'est marrant en plus. J'en ai deux, je t'enfilerai un. Ça, c'est rigolo. Mais là-bas, ils l'ont pris avec humour. Par contre, sur les réseaux sociaux, depuis 48 heures, j'ai l'impression que je suis Pierre Ménès. Non, Pierre Ménès plus Pierre-Jean Chalençon. Non, je suis Pierre Ménès qui aurait mangé un enfant chez Chalençon après 19h.
Après 19h.
Je suis à ce niveau-là de popularité.
Oh là là. Bon, ce qui est vrai, c'est que vous êtes la cible d'attaques très très virulentes de Portugais, de certains Portugais qui ont découvert cette ancienne chronique.
C'est normal, c'est le jeu. J'ai parlé de leur prophète, Cristiano Ronaldo. Je morfle. Ah. Alors j'ai reçu des messages curieux. J'étais d'accord avec certains d'entre eux à 50%.
Lesquels ?
Je vous jure qu'il est authentique. Il y a un Carlos qui m'écrit « Non au racisme ». Espèce de gros PD. Alors, ouais. Carlos, oui, à 50%, ton message est très bien, non raciste. Et après, ça bascule. Mais déjà, je me suis dit, comment il a su pour espèce de gros PD, alors que j'ai une femme en couverture depuis 13 ans pour faire. En plus, une femme pas étrangère pour masquer mon racisme.
Ouais, ça
me fait double couverture, quoi, double plaid. J'ai un Thiago.
C'est un grand pervers, en fait. Ouais.
Mais tout, j'ai un Thiago qui me dit je vais faire une brandade de morue avec ton chat, Roméo. Alors, ça, à la limite, ça m'a fait sourire.
Oui.
Parce que c'est un cliché, il répond à un cliché, à mes clichés. Donc, sans animosité, ça, c'est marrant.
Mais vous avez aussi beaucoup de messages qui vous accusaient de racisme. Philippe Cavrivière, êtes-vous raciste ?
Alors, écoutez, j'aurais tendance à vous répondre a priori non.
Oui.
Mais c'est vrai que quand on vous traite de raciste, vous devenez Nadine Morano dans la seconde. Vous cherchez une amie noire en panique ? Vite ! Alors moi, j'ai pris mon portable, j'ai cherché des Da Silva, des Da Costa. Hein, et j'ai reçu beaucoup de messages, ça va être très violent, mais des centaines. C'est assez éloigné du poète Fernando Pessoa. Hein. Il y a beaucoup de menaces physiques. Moi, j'ai surtout eu peur qu'il casse la gueule par erreur à David Guetta.
Oui, il ne faudra pas confondre. Hein,
Qui n'a pas fait de vannes lourdes sur les Portugais, lui. Alors c'est vrai, Thomas, qu'ici, j'ai fait des vannes sur tout. J'ai fait beaucoup de vannes sur Dijon, par exemple. Résultat, je ne peux plus foutre les pieds à Dijon.
Ce qui vous pénalise.
C'est pas très grave. Par contre, ne plus jamais aller au Portugal, ça m'emmerde déjà plus. Hein, les plages de Dijon sont moins célèbres que celles d'Algarve. Bon,
les plages du lac Kyr à Dijon sont très agréables.
C'est vrai ?
Ouais, absolument.
J'irai pas non plus.
Bon, mais est-ce que vous comprenez, soyons sérieux une seconde, que certaines vannes de cette chronique aient pu choquer, en vrai ?
Bien sûr que je comprends. C'était pas très fin. J'ai enchaîné les clichés sur les Portugais. Les Portugais qui m'ont découvert avec cette chronique se sont dit « Quel connard !»
Oui.
Et ils ont eu raison. Mais avant, j'avais fait 40 vannes sur la coupe gominée de Jonathan Daval, avant cette chronique.
Oui.
Et bien sûr, je n'assimile pas tout le peuple portugais à un assassin. J'ai fait aussi des vannes sur les kékés avec des tatouages. Je vous donne une info,
oui.
Je ne les ai pas fait cette nuit.
Oui. Hein, vous êtes bien classé en termes de
voilà,
kékés avec des tatouages.
Kéké, je suis là quand même, je suis dans l'équipe. J'ai dit un jour sur cette antenne, Thomas, vous en rappelez tous,
oui.
Les ados, c'est comme les chats nus, c'est pratique, ça fout pas des poils partout dans le lit.
Je m'en souvenais plus.
Ah oui, j'avais dit ça. dans mon échelle de valeur, ça va un chouille plus loin que les vannes capillaires ou vestimentaires.
Oui.
Alors je me suis fixé une règle, Thomas, ici, ne jamais m'excuser. Les insultes et les menaces reçues ne me donnent pas vraiment envie de le faire. Mais j'ai reçu tellement de messages intelligents qui me disaient « Tu sais Philippe, on est fiers, les Portugais, on a été blessés par ces amalgames. » Et pour eux seulement, je dirais « Peço desculpas, mes vannes étaient reloues, je m'excuse, j'ai compris. » Et je dis « Grande chronique sur les Espagnols. » Je présente, les amis, je m'excuse sincèrement.
Mais tu feras ce que tu voudras, je dis.
Et on finit en musique. Thomas, je vous propose qu'on termine sur un air du célèbre groupe portugais, Madre Deus. Ça s'appelle « Espírito da Paz », l'esprit de paix. Oui, c'est pas mal, l'esprit
c'est
de
bien,
paix. Et je voudrais dire, j'ai reçu plein de messages violents, vraiment des tonnes. Mais au milieu, j'ai des gens gentils. J'ai Philomena de Philo Mood, une dame portugaise très gentille. J'ai Jason Influenceur, France Tugal TV, Alexandre de Portugal, je t'aime. Plein de messages gentils qui m'ont dit, mais on a compris, on est avec toi. Et des gens qui... vous savez que cette chronique date de janvier ?
Oui.
Vous savez combien on a eu de plaintes en janvier ? Zéro. C'est pas beaucoup. Et on a des auditeurs portugais qui ont écouté la chronique en janvier. Zéro plainte, c'est pas beaucoup.
Mais parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un qui a choisi de rire de tout, tout le temps, partout, de se moquer de tout le monde, à commencer par vous-même. Et ça change pas ce que vous êtes intrinsèquement, Philippe Cavrivière. Vous êtes un type ouvert aux autres, généreux, pas méchant pour un sou. Un garçon qu'on sera très heureux de retrouver ici jeudi soir.
Merci beaucoup.
Et je suis sûr que les Portugais qui ont été injustement blessés auront été heureux
été
de vos mots ce soir. Voilà. Allez, on embrasse tout le monde. Et on peut pas mettre un petit peu de la musique? On est vraiment très très en retard ou pas? Si on est. Bon, allez.
Un peu de musique portugaise.
C'est vrai que, comme dit le réalisateur Grégory Caradoni, être très très en retard ne nous a jamais empêché d'écouter un peu de musique. Alors allons-y. Et dans un instant, on recevra Jean-Luc Barré qui a écrit un roman à clé prenant sur le monde politique. Ça s'appelle Le corps d'origine.
RTL. RTL Soir.
Thomas Soto,
RTL Soir.
Il a été un temps la plume de Jacques Chirac. Aujourd'hui, il publie un roman, Le corps d'origine, qui sortira demain chez Grasset. Jean-Luc Barré, l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Jean-Luc Barré.
Bonsoir.
Ni vu ni connu, Guillaume Roussel a pris l'habitude de tricher sur presque tout depuis le début de sa carrière. L'argent, le sexe, les idées, tout est usurpé dans son image publique, à commencer par la rigueur des principes et la fidélité aux valeurs dont il se réclame. Leader d'une droite qui se veut dure et sans concession. Ça, ce sont les tout premiers mots de ce livre et vous poursuivez. Tout destiné au Guillaume Roussel à remporter la prochaine élection présidentielle. Ma première question est extrêmement simple. Votre livre, c'est un roman ou c'est une biographie cachée de François Fillon?
Je m'attendais un peu à la question,
bah,
pardon.
Quand même, mais... c'est un peu troublant.
Non, c'est d'abord un véritable roman, mais inspiré sans doute par, en effet, toute une série d'affaires, dont l'affaire Fillon. Mais ouais. Ce qui m'a surtout inspiré, c'est ce milieu politique. Que je connais un tout petit peu.
Que vous connaissez très bien.
Voilà, et donc que je trouve extraordinairement romanesque, oui. Dans lequel il y a des figures, des personnages, et peut-être plus que jamais romanesque, parce qu'au fond, les personnages politiques, les hommes publics sont de plus en plus masqués, sont de plus en plus réduits à une sorte d'image, et donc leur vérité devient de plus en plus difficile à discerner, et il faut parfois un scandale pour y arriver.
Ouais, c'est romanesque, le monde politique, mais c'est un monde dont on se dit aussi qu'il est peut-être parfois un peu naïf. Il y a une question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce qui fait que certains politiques dérapent, persuadés que ça ne sortira pas, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que personne ne le saura jamais, alors qu'on sait qu'aujourd'hui tout finit par sortir. Comment vous l'expliquez?
C'est un sentiment que je... Alors, d'où le titre d'ailleurs, Le corps d'origine, c'est entre autres l'ENA. Il se trouve que mon livre sort au moment où on ferme l'ENA. Enfin bon, en tout cas, le corps d'origine va perdurer. C'est le sentiment souvent, non pas d'impunité, d'immunité. C'est-à-dire l'idée au fond, et c'est le cas de mon héros, que finalement il y a les mêmes vices, il y a les mêmes travers, et qu'ils sont protégés, chacun est protégé par les secrets des autres. Et c'est une part de naïveté. Vous avez raison, sauf que ça fonctionne longtemps, jusqu'au moment où quelqu'un a intérêt à ce que ça dérape. Et d'où l'origine de beaucoup de scandales. Et d'ailleurs, assez naïvement, on pense que ces scandales sont issus d'une enquête de presse,
oui,
etc.
Non,
ce qu'on
ce que
oublie,
vous dites,
c'est que quelqu'un a intérêt
ça
à ce que...
Ça ne sort jamais par hasard.
Absolument, voilà.
C'est toujours, comme chacun tient tout le monde et tout le monde tient les autres, il y a un moment où il y a un règlement de compte et boum, ça sort.
Ça sort. Et là, on découvre la vérité souvent de ces hommes politiques. Vous parliez tout à l'heure d'un ancien Premier ministre. Mon héros, il se trouve que c'est un père de famille irréprochable. Un mari exemplaire, un homme extrêmement rigoureux sur le plan financier et un homme plutôt un chrétien de droite. Dans sa vie, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il a fondé véritablement sa carrière, sa vie sur le contraire de ce qu'il est. Mais c'est souvent malheureusement le cas ou heureusement, enfin, je ne sais rien, en tout cas en politique, et surtout quand on est dans le registre de la morale. Vous aurez observé que souvent les hommes politiques qui sont des donneurs de leçons sont les premiers à être piégés précisément par les leçons qu'ils ne tiennent pas.
Ils vont trop dans la morale aujourd'hui, les politiques. Ils vont plus dans la morale qu'avant, par exemple, ou pas? Cette espèce d'image toujours impeccable. Vous le disiez, il n'y a pas d'aspérité.
Oui, parce qu'ils sont de plus en plus suspects, parce qu'ils sont de plus en plus vulnérables, donc il faut qu'ils donnent des gages. Alors, vous les entendez souvent parler de choses qui sont, bon, tout à fait respectables, mais qui sont difficiles à tenir. Je pense que les grands hommes politiques, prenez Jacques Chirac, prenez François Mitterrand, n'étaient jamais des donneurs de leçons de morale. Et leur vie, d'ailleurs, était des vies multiples, on va dire. C'était pas des personnages toujours exemplaires.
Ils n'étaient pas lisses, ni l'un ni l'autre.
Non, mais ils avaient un véritable destin. Aujourd'hui, le fait de devoir construire une image, ne serait-ce que vis-à-vis de vous, les médias, vis-à-vis de l'opinion, fait qu'on est dans le faux semblant. Et donc, la morale, après tout, c'est très bien pour se faire élire, sauf qu'il faut être à la hauteur de cela.
Mais ni Chirac ni Mitterrand ne se moquaient de l'image qu'il renvoyait. Mitterrand a travaillé avec Jacques Pilant, notamment, Chirac aussi d'ailleurs, qui était un communicant autour de lui. L'image n'était pas absente de leur façon de gouverner. Le souci de leur image, si?
Non, c'était pas absent, mais en général, ça marchait pas très bien. Et souvent, c'est le fait de. C'était souvent des moments clés qu'ils maîtrisaient eux-mêmes, qui faisaient qu'ils s'imposaient, qu'ils se révélaient. Ce qui plaidait pour François Mitterrand, c'est le destin de François Mitterrand, son histoire, avec des scandales. Et Chirac aussi, il y avait un moment de vérité, finalement, peut-être qu'il leur échappait, j'en sais rien, en tout cas, qui échappait à la communication. Et mon héros est tout à fait le reflet d'un milieu politique aujourd'hui qui n'est plus dans la vérité, qui est un monde un peu de faussaires. D'ailleurs, c'est ce que dit le héros à un moment donné. Il dit nous sommes tous des faussaires.
Mais c'est ce qui est un peu déprimant. Moi, je vais vous dire, moi, j'aime la politique. Je m'intéresse à la politique. Je trouve votre bouquin savoureux. Mais on en ressort un peu désabusé, quoi. On se dit...
Oui, enfin, vous savez, les romans sont là aussi pour raconter des histoires, donc c'est une histoire.
C'est un roman qui a quelques clés, quand même.
Oui, mais non, moi, c'est pas un roman qui m'a attristé. Je trouve fascinante et passionnante cette classe politique, mais comme d'autres milieux d'ailleurs. Mais effectivement, elle est à un tournant de son existence où je pense qu'elle est piégée. Pense qu'elle est piégée et que la seule manière finalement pour elle de retrouver peut-être un peu de vérité, c'est de retrouver d'abord de faire en sorte que des gens s'engagent en politique de plus grande qualité aussi, parce que finalement, il y a une baisse de qualité du monde politique et beaucoup de gens très talentueux n'y vont plus à cause de tout cela.
Vous avez très bien connu Jacques Chirac, puisque vous avez contribué à la rédaction de ses mémoires. Chaque pas doit être un but, pardon, et le temps présidentiel. Il était comment Chirac quand il se confiait ?
Lui était aussi un personnage par certains côtés un peu fabriqué, et l'homme que je voyais n'était pas du tout fabriqué. Et s'il fallait réussir à approcher cet homme-là dans sa vérité, il était extrêmement drôle. Très provocateur, très humain, très complexe et très secret aussi.
Parce mais que il même se confiait vraiment ou il a, même dans, avec le recul aujourd'hui, quand vous relisez ces deux livres, ces mémoires, et vous en avez écrit un autre depuis, mais vous avez le sentiment que c'est l'homme politique qui vous a parlé ou c'est l'homme ?
Je crois que c'est l'homme, parce que vous savez, tout ça s'est joué à un moment de sa vie où, d'une certaine manière, il avait délaissé un peu son habit d'homme d'État, fait tomber un peu son masque. Je pense que c'était le moment clé, c'est-à-dire le moment d'après le pouvoir, qui était pour lui un grand moment de solitude. Dans mon roman, je raconte la solitude aussi des hommes de pouvoir. Chez lui, elle était extrême. Je pense qu'il ne s'est jamais remis, finalement, de l'après-pouvoir. Et donc, au fond, lui, qui ne croyait pas tellement à l'image qu'il laisserait, il avait envie de se raconter. Ce qui s'est passé entre lui et moi, c'est aussi une relation, voilà, c'est une relation de confiance, je crois, qui s'est établie. Et il voulait me raconter, il voulait me parler. Et il m'a dit beaucoup plus de choses, d'ailleurs, qu'il n'y a dans les mémoires que j'ai racontées dans un autre livre, en effet.
Absolument. Vous êtes aussi un ami personnel de Jérôme Cahuzac, qui a été rattrapé, lui aussi, par les affaires, on s'en souvient. Comment il va aujourd'hui ?
Écoutez, je crois qu'il va bien. Il est en Corse, il est médecin en Corse, il est sorti de cette période. Il a payé toutes ses fautes, à tous égards, fiscalement, socialement, humainement. Ça a été une épreuve extrêmement dure. Aujourd'hui, il essaie de se reconstruire, d'après ce que je sais. Ce qui est vrai, c'est que un homme comme Cahuzac, par exemple, est assez symptomatique de ce que je raconte dans ce roman, c'est-à-dire des personnages qui construisent une certaine image et qui sont rattrapés d'une manière ou d'une autre par une vérité.
Vous avez de la tendresse pour les politiques quand même, non ? Quand on lit ce livre.
Oui, je les aime beaucoup. C'est pour ça que c'est pas un livre désabusé. J'aime beaucoup ces hommes-là ou ces femmes-là parce que je les trouve d'abord très courageux de s'engager de cette façon aujourd'hui. Et je trouve que ce sont des personnages tous très très romanesques et peut-être de plus en plus romanesques. Peut-être qu'il ne reste rien que le romanesque.
Quand vous regardez le lointain successeur de Jacques Chirac qu'on évoquait, Emmanuel Macron, vous voyez quel genre de personnage politique ?
Je vois un personnage assez lui-même assez concerté, assez organisé. Je pense que c'est pas par hasard qu'il a fait du théâtre. Je pense que le théâtre a été sa première école politique et il est resté cela avec une
Donc
part
vous voyez
de
un acteur.
Oui, je vois un acteur avec une part de mystère qui tient sans doute à l'homme réel qu'il est, ce que peu connaissent finalement. Et ce qui me frappe chez lui, c'est peut-être le fait de ne pas se livrer suffisamment rend peut-être compliqué la relation qu'il doit y avoir entre un président et le peuple, puisque Chirac avait réussi parfaitement à nouer ce lien-là particulier.
Merci beaucoup Jean-Luc Barré. Votre livre s'appelle donc Le corps d'origine. C'est un roman passionnant. Il sort demain chez Grasset. Merci d'être venu nous en parler ce soir.
Merci.
Figurez-vous que le plus grand lapin du monde a été volé en Grande-Bretagne. Et quand le plus grand lapin du monde est volé, Julien Molcou en fait immédiatement un civet et nous cuisine une culture de l'actu spéciale lapin. Tout de suite.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et à 18h53, la culture de l'actu. Peggy, est-ce que vous connaissez Darius ?
Darius ?
Darius, vous connaissez Darius ? Le plus grand lapin du monde.
Ah !
Vous savez combien il mesure ou pas Darius ?
Combien ?
1m29. Bonsoir Julia Molcou.
Bonsoir,
Darius
Thomas,
a été volé ce matin en Angleterre. Alors en attendant que sa propriétaire le retrouve, hommage à Darius et au lapin dans la culture de l'actu.
Dans sa maison, regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi.
Le lapin est partout dans la culture et d'abord dans la culture enfantine. Pampan tape du pied chez Walt Disney. Bugs Bunny n'a qu'une seule phrase à la bouche.
Hey, quoi neuf de terre ?
Voilà, le lapin de Lewis Carroll est toujours en retard. Celui de Chantal Goya, on le sait, a tué un chasseur. Quant au lièvre de La Fontaine, il avait oublié que...
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.
Alors le lapin, c'est aussi une figure de la culture populaire. C'est le lapin qui apporte les œufs de Pâques, selon une tradition héritée. Non, pas partout. Dans le nord de la France, par exemple, et dans plein de coins, c'est bien le lapin. Et c'est une tradition héritée du haut Moyen-Âge et de la divinité du printemps, Éostre, dont l'animal totem était le...
Lièvre,
bravo.
Je sais lire.
Et le lapin, c'est aussi Serge. Mais oui, Serge.
Ah oui, ne te fais pas croiser les doigts, là. Ah, il est génial.
Oui, tu risques de te faire passer.
Ouais, c'est ça, tu risques de te faire passer très fort. Je l'adorais quand j'étais petit.
Ils auraient dû vous prendre pour le doubler, je le savais. Enfin, le lapin agile, eh bien, c'est le nom du plus ancien cabaret de Montmartre, fondé au milieu du 19e et qui a vu s'accouder à son zinc ou monter sur scène Picasso, Charlie Chaplin ou encore Claude Nougaro, qui a fait ses débuts. Et pour la petite histoire, il a même choisi ce lieu si emblématique à ses yeux pour être distingué de l'Ordre national du mérite.
Et alors, le lapin, c'est aussi une histoire de cinéma et de grandes personnes quand même.
Oh oui. Alors depuis 88, le lapin, c'est Roger. Bah oui, Roger Rabbit. Pauvre acteur toon de seconde zone, accusé du meurtre de l'amant de sa femme, la sublime Jessica Rabbit. Vous la voyez là avec sa robe rouge fondue.
Ouais. Oh là là.
Et puis quand le lapin apporte un nœud papillon de smoking, c'est évidemment le lapin des grandes personnes qui aiment autant les articles de fond que les filles à moitié nues du magazine
Playboy.
Bien.
Mais on a commencé dans sa maison à Grand-Serre, on en a Playboy.
Playboy, fondé par Hugh Hefner en 1953. Alors, on le sait moins, hein, grand défenseur des droits civiques, du droit à l'avortement, du divorce, mais aussi, et ça on le sait davantage, mais on se l'explique moins, grand amateur de femmes, oreilles de lapin sur la tête et pompons sur les fesses.
Et un jour, qu'est-ce qui t'a pris de nous mettre un pompon au cul? Des oreilles de lapin et des seins gros comme des obus. Mais enfin, Hugh, qu'est-ce qui t'a pris? T'étais pas loin d'être drôle, féministe. Hein. L'égalité, c'est le pompon que t'aurais pu te mettre dans le haut. Oh, oh, oh.
Ça, c'est les coquettes. Ah, c'est les coquettes. Hein. Et c'était là, sur l'antenne d'RTL, il y a quelques années, à l'heure du déjeuner.
Non. Revenons tout de suite au lapin, le grand cerf. Allez-y. Ah. Non, mais il y a mon fils qui écoute, quoi.
Vous êtes choqués.
Un lapin venir à lui et frapper ainsi.
Je pense que si Jean-Jacques Goldman nous écoute, il doit faire une dépression. Pourquoi on ne passe plus mes chansons et on passe dans des maisons à grand cerf?
Mais parce qu'il n'a rien écrit sur le lapin, j'ai cherché quand même. Tous les jours, je tape Goldman avec le mot. Hein.
Il n'a pas chanté encore un lapin? Encore un lapin? Ok, pardon.
C'est bonne.
Cabrivière fera des excuses au lapin jeudi prochain. Merci beaucoup.